mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Catherine. Nous allons aujourd'hui parler de nudging.
Un mot anglais ? De quoi s'agit-il ?
Nous allons commencer par parler de celui qui a inventé la chose, Richard Thaler. Il est né en 1945 et a exercé comme professeur d'économie à l'Université de Chicago. En 2017, il a reçu le prix Nobel d'économie, plus particulièrement pour ses travaux d'analyse comportementale des acteurs économiques. Richard Thaler avait publié en 2008, en collaboration avec Cass Sunstein, l'ouvrage suivant « Nudge, émotion, habitude, comportement, comment inspirer les bonnes décisions » ou dans d'autres éditions « Nudge, la méthode douce pour inspirer la bonne décision ». « To nudge » est un verbe anglais qui signifie « toucher » ou « pousser légèrement avec le coude » de façon à attirer discrètement l'attention de quelqu'un. La signification est identique pour le substantif « a nudge ». La traduction généralement retenue pour l'emploi de « nudge » ou « nudging » par Richard Thaler est « coup de pouce ». Cette substitution anatomique est cependant significative et bienvenue, car elle témoigne de la bonne compréhension de la pensée des auteurs. Thaler et Sunstein sont en effet les chantres d'une théorie économique et sociale, le paternalisme libéral. Libéral car les acteurs économiques restent maîtres et responsables de leurs décisions. Paternaliste car ces décisions sont guidées, orientées, induites par une autorité bienveillante, celle qui prodigue les coups de pouce ou les coups de coude. La version française sous-entend mieux la dissymétrie entre celui qui administre le coup de pouce et celui qui a besoin de son aide, entre celui qui connaît d'avance la bonne décision et celui qui va librement, mais c'est un point d'interrogation, la prendre.
Peux-tu donner des exemples ?
Nous avons l'exemple du métro de Hambourg. Une sorte de piste d'athlétisme a été peinte au sol de façon à aiguiller les voyageurs vers les escaliers plutôt que vers les escaliers roulants. Les gains seraient multiples, meilleure fluidité de la circulation, moins d'entretien et de panne d'escaliers mécaniques, meilleure santé des utilisateurs qui font ainsi un peu d'exercice. L'approche par le nudge a recueilli une grande fortune. Très vite, ont surgi le nudge marketing et le nudge management. Consultants spécialisés et associations dédiées sont apparus. Le nudge a également séduit des décideurs publics. C'était d'ailleurs l'un des objectifs de Richard Thaler, conseiller de divers gouvernements. La question est en effet de faire accepter et appliquer plus aisément des politiques publiques. Ainsi, les lettres de relance du fisc britannique aux retardataires signalent que 70% des concitoyens ont déjà réglé leur impôt. L'État français a lui-même adopté la même méthode, comme en témoigne une note du Centre d'analyse stratégique, la note numéro 216, datée de mars 2011. Son titre, « Nudge vert, de nouvelles incitations pour des comportements écologiques ». Le Centre d'analyse stratégique, l'ancien commissariat au plan, est devenu depuis France Stratégie.
Que vient faire ce sujet du nudging dans notre émission girardienne ?
C'est très simple. L'un des principaux leviers du nudging est tout bonnement le mimétisme. Vous l'avez sans doute compris dès l'exemple du fisc britannique. Faites un petit tour sur une librairie en ligne et sélectionnez un livre. Le site vous envoie amicalement un petit bandeau signalant que les acheteurs de ce livre ont également acquis les ouvrages suivants, et vous avez ainsi tout un choix d'autres livres prêt à envahir votre bibliothèque. Dans la même logique, des sites de réservation d'hôtels en ligne vous signalent les établissements les plus populaires. Il s'agit d'un emploi du mimétisme. Quelqu'un le stimule en vue d'une fin. Cet usage va même plus loin et s'engage sur le chemin de la rivalité mimétique. Voici le mécanisme chez certains fournisseurs d'électricité. Ils vous proposent, grâce au compteur Linky, de suivre au plus près vos consommations et pourquoi pas de participer à un jeu concours amical avec vos voisins ou avec les occupants d'habitations comparables. De semaine en semaine, vous saurez si votre consommation d'électricité est plus performante que la moyenne des autres. Vous serez peut-être inscrit au tableau d'honneur des usagers les plus éco-responsables, etc. Dans la note de France Stratégie, nous pouvons lire comment certaines municipalités incitent au tri des déchets ménagers ou à la modération dans le recours à la climatisation en faisant connaître les résultats des voisins en la matière. Ce n'est pas seulement du mimétisme, c'est bien la compétition mimétique qui est ainsi mise en œuvre pour obtenir de la population les comportements souhaités. Le lien du nudge avec le mimétisme est parfois plus délicat à percevoir. Par exemple, la compagnie exploitant un moteur de recherche bien connu offre la nourriture à volonté à ses employés. Pour éviter les excès, elle a réduit la taille des assiettes.
Mais il est facile de retourner se servir.
Et justement non. C'est le conformisme social qui est le véritable nudge. Risquer de passer pour un glouton irresponsable aux yeux de ses collègues assure la régulation. Le même mécanisme est employé, par exemple, avec les formulaires d'autorisation pour les dons d'organes. La question peut être posée de façon positive ou négative. Acceptez-vous le don d'organes ou refusez-vous le don d'organes? La deuxième formulation produit davantage d'accords pour le don. Il est en effet plus difficile de refuser que d'accepter. Le conformisme social, intériorisé par chacun de nous, désapprouve les attitudes de refus ou de rejet. Surtout s'il vous a été susurré par ailleurs que la grande majorité des gens acceptait ce don. Ainsi, le nudge est un usage conscient du mimétisme.
Jean-Louis, les Girardiens connaissent parfaitement le caractère ambivalent du mimétisme, sa face sombre et sa face lumineuse. Le nudge est-il un bon usage du mimétisme?
Bien sûr, les initiateurs, Richard Thaler en tête, en font l'apologie. C'est pour eux une approche non violente, la méthode douce comme ils disent. Elle maximise les décisions positives pour la communauté. Les options non souhaitées restent disponibles, comme les escalators du métro de Hambourg. Les dispositifs à mettre en place sont en général peu coûteux. L'informatique en décuple d'ailleurs les possibilités. Souvenez-vous des conseils des librairies en ligne. Toutes ces caractéristiques expliquent l'engouement des gouvernements, des entreprises et autres organisations pour recourir au nudge. Mais les spécialistes eux-mêmes reconnaissent que le nudge s'appuie sur ce qu'ils appellent nos biais cognitifs, c'est-à-dire les failles de notre rationalité. Il est donc une forme de manipulation. Sa seule justification serait qu'elle est exercée pour la bonne cause. La vraie question est donc celle des intentions de la fameuse autorité bienveillante qui pose le nudge, celle qui va dire la bonne cause.
Qui est donc cette autorité bienveillante? Quelle est sa légitimité pour dire le bien?
Quand le patron d'un site en ligne me propose d'autres livres à acheter suite à mes recherches, n'a-t-il en tête que mon épanouissement intellectuel? Et comment puis-je assurer que cette phrase « Les acheteurs de ce livre ont également acheté les ouvrages suivants » dit la vérité? Dans certaines campagnes incitatives, les organisateurs ont été pris la main dans le sac à diffuser de faux chiffres pour encourager les participants. Et ne se trouve-t-il pas des ouvrages dont le site s'abstient de me révéler l'existence ? Rendre l'information difficilement accessible est une forme de nudging. Avec le nudge en matière de management, les doutes ne font que croître. Mauro Cherubini, professeur à HEC Lausanne, en donne un exemple. Au sein des organisations, les nudges peuvent servir des objectifs légitimes pour les employés, comme les encourager à éviter la procrastination. En termes moins fleuris, cela signifie mettre la pression sur les employés un peu lents. Enfin, avec le domaine politique, le nudging apparaît de plus en plus contestable. La positivité d'un nudge dépend de la bienveillance de l'autorité qui le met en action, en l'occurrence, le gouvernement. Or, le caractère le plus souvent masqué et manipulatoire des nudges s'accorde mal avec la transparence et le contrôle par la représentation parlementaire qui sont le propre de la démocratie. La théorie mimétique nous enseigne à déceler les mécanismes mimétiques qui opèrent en nous-mêmes, à en prendre conscience et à les dépasser, à tâcher de n'en retenir que la face lumineuse. À l'égard du nudging, enfant du mimétisme, il semble raisonnable d'adopter la même ligne de conduite et ne pas s'abandonner aveuglément au sortilège de ce procédé et de ceux qui le mettent en œuvre.
C'est bien entendu, Jean-Louis. Au revoir.
Merci aux auditeurs de leur écoute. Au revoir, Catherine.